Dans le cadre du mois de la sensibilisation à l'adoption, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes absolument phénoménales, Nicole et Amanda Maude Duguet, qui font tous les deux partie d'une famille d'accueil et d'une famille adoptive à Pont-Landry, dans le nord de la province. Et je vous laisse écouter cet entretien en intégrale.
Dans ton cas, Amanda, qu'est-ce qui était ta vie avant d'avoir été chez Nicole et Éloi? Parle-moi de ça peut-être un peu.
C'est un peu compliqué parce que la vie avant d'être adoptée, c'était un peu problématique parce que je viens d'une famille qui était, je sais pas comment dire ça, mais avec beaucoup de problèmes, puis c'est les services sociaux qui sont venus me chercher, moi, ma soeur, puis mon grand frère, puis j'avais 5 ans quand ils sont venus me chercher. Fait qu'ils m'ont sorti d'un milieu vraiment problématique, là, avec la consommation de drogue, d'alcool, puis beaucoup de négligence envers nous. Fait que quand on est arrivé en famille d'accueil, on n'avait jamais connu un environnement familial stable. On ne savait pas vraiment ce qu'était l'amour d'un parent, puisqu'on était tout le temps garrochés d'un bourg à l'autre. Fait ma vie avant était pas mal traumatisante. Ouais. Puis quand je suis arrivée dans une famille stable, quand je suis arrivée chez ma maman adoptive, je ne savais pas à ce moment-là, mais je me rappelle juste qu'à la minute qu'on a mis les pieds dans la maison, on se sentait déjà chez nous comme on ne l'avait jamais senti. Puis ça n'a pas pris de temps qu'on appelait déjà maman et papa, même si on n'avait pas le droit, parce que avant d'être adoptée, il faut enlever la garde aux parents biologiques. C'est un long processus. C'est ça. Moi, avant, c'était perturbant. C'est pas mal des mauvais souvenirs, mais quand je suis arrivée dans ma famille adoptive, en famille d'accueil à ce moment-là, c'est là que j'ai appris ce que c'était d'avoir une famille puis d'être un enfant normal.
Mm-hmm. C'est touchant. Puis toi, Nicole, de votre côté, j'en ai avec Amanda avant, puis j'ai cru comprendre que vous avez adopté Amanda, Janie et Mathieu en même temps, c'est ça?
Oui, ça, c'est notre première adoption. C'était les trois enfants de la fratrie. Ils étaient trois, puis il n'était absolument pas question de séparer les trois.
OK. Comment qu'ils étaient?
Parce que ça arrive dans certaines adoptions où ce que c'est qu'ils vont séparer les enfants, puis un enfant du lot de trois, un exemple, va être adopté ou ne sera même jamais adopté, puis il y en a deux sur le lot ou un qui va être adopté. Mais nous, dans notre cas à nous, il n'était absolument pas question de séparer les enfants. Ils étaient trois et ils allaient rester trois, peu importe ce que l'avenir allait nous réserver.
Wow! On va y revenir à ça, mais je vais peut-être faire un petit step back avant l'adoption. À quoi votre vie ressemblait à toi et votre conjoint?
Avant l'adoption, je te dirais que moi, je travaillais en tant que gérante dans un magasin. Je ne sais pas si tu as connu ça longtemps passé. C'était les SAN qu'on appelait.
Oui, ma mère travaillait en SAN.
Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on se connaît. c'est ça, ce que moi, je travaillais. J'étais gérante de magasin. Mon mari aussi travaillait à l'extérieur de la région. Dans ce temps-là, il travaillait dans la région de Capelle. J'avais deux fils biologiques à ce moment-là. Puis, à un moment donné, 16 ans passés, on a décidé de devenir famille d'accueil. On a décidé qu'on allait prendre sous notre toit des enfants qui avaient besoin pour un certain laps de temps de réconfort, de soutien et surtout de stabilité. Puis que c'est comme ça qu'on allait faire. Mais quand on a décidé de famille d'accueil, ça a été vraiment une décision familiale. On en a parlé avec nos deux fils biologiques avant pour sonder le terrain, comment est-ce qu'eux autres verraient ça d'arriver dans leur univers, de devoir partager leur père et leur mère avec d'autres enfants. Puis eux autres, ça a été tout de suite instantané que oui, ils étaient bien d'accord avec ça, puis que eux autres aussi embarquaient dans ce genre de galère-là, si tu veux. Là, okay? Parce que moi, à la base, étant plus jeune, quand j'étais ado, j'avais toujours en tête que j'aurais aimé d'être missionnaire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était toujours quelque chose qui m'avait énormément attiré, le fait d'être missionnaire, de vouloir partir, puis d'aller conquérir le monde, à aider des enfants. Finalement, je suis devenue missionnaire dans ma région.
Ouais,
à ma façon, en étant famille d'accueil. Ça fait que là, je te dirais que 2 ans après qu'on a commencé à être famille d'accueil, Moi, à la base, ayant jamais eu de fille, et puis n'ayant pas de sœur non plus, j'ai seulement un frère pendant 9 ans de différence, j'avais un grand besoin d'avoir une fille. J'avais toujours eu un énorme désir de vouloir une fille. Puis, on a discuté, mon mari, puis on a dit qu'on allait se tourner vers l'adoption. Fait qu'on a toutes fait les démarches, tout le processus qui est extrêmement long, de paperasse, d'évaluation. C'est énormément, c'est vraiment un grand cheminement. Parce que même si tu es famille d'accueil, tu as zéro passe droit au niveau de l'adoption, tu dois faire toutes les démarches, que tu sois une famille adoptive ou que tu sois famille d'accueil. Faut vraiment...
Justement, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui pourrait m'expliquer la distinction entre une famille adoptive et une famille d'accueil? Parce que ce n'est pas la même chose.
Non, c'est absolument pas la même chose. Parce que famille d'accueil, tu gardes un enfant pour X nombre, soit de mois ou d'années, dépendant du dossier. À la base, habituellement, un enfant reste environ 2 ans dans une famille d'accueil avant que le processus de la cour décide si que l'enfant est capable de retourner avec sa famille biologique ou si que suite d'une ordonnance de tutelle, que ça passe à la cour pour enlever les droits des parents biologiques, que l'enfant va s'en aller sur une liste d'adoption. C'est comme ça que tu détermines le titre de famille d'accueil. Toi, tu es là pour prendre soin de l'enfant en attendant que le ministère du Développement social décide de ce qui va se passer réellement avec l'enfant, si vraiment c'est faisable que l'enfant retourne dans sa famille ou un membre de la famille ou que s'il doit rester en famille d'accueil et puis là enclencher un processus d'adoption. Tandis que quand que tu deviens famille adoptive, le mot adoptive, il est pratiquement plus là dans le sens que aussitôt que tu adoptes un enfant et que le juge a rendu l'ordonnance d'adoption, tout ce qui était du passé de cet enfant-là, c'est fini. Il n'y a plus rien qui relie l'enfant à sa famille biologique. C'est vraiment cassé, comme on pourrait dire, même que ce soit au niveau des parents morines. Si l'enfant avait, je parle des enfants plus vieux, avait un parent morine, ça n'existe plus. Même ton Medicare que tu avais dans le passé, tu ne gardes même pas ton numéro de Medicare. Tu n'as plus le même numéro Medicare. Tout est vraiment changé. Tu deviens complètement une autre personne. Dans un sens.
Incluant ton numéro d'assurance sociale puis tout ça?
Incluant ton numéro d'assurance, wow. Tout ça. Tu ne gardes même pas ton numéro de Medicare. C'est vraiment un autre numéro de Medicare que tu vas recevoir en ayant le nom de famille, de la famille qui t'a adopté, si tu deviens une Thériault, si tu deviens une Duguay, peu importe le nom de famille que la famille d'adoption porte.
Peut-être une autre question pour toi, Nicole. Après ça, je vais revenir à Amanda. Tu as dit que c'était un long processus, l'adoption. Oui. Pourrais-tu me décrire peut-être, pas trop rentrer en profondeur, parce qu'on va passer des heures à discuter,
oui.
Mais les grandes lignes, les grandes étapes du processus d'adoption?
OK, ben pour commencer, tu dois rencontrer un travailleur social d'adoption. Et puis, tu dois aller lui mentionner que toi, que tu as le désir d'adopter un enfant. Suite à ça, il y a plusieurs formulaires à remplir, dont le formulaire où ce que c'est qui te demande la catégorie d'âge. Et puis là, la catégorie d'âge, c'est un peu complexe aussi, dans le sens que toi, en tant que parent, si tu as déjà des enfants à toi, tu ne te qualifies pas pour avoir des nouveaux-nés. Ou c'est quasiment irréaliste de penser que tu auras un nouveau-né, dans le sens que les nouveaux-nés sont... je te dirais, garder pour les familles qui n'ont jamais eu la chance d'avoir d'enfants. Tandis que quand tu as déjà eu des enfants, comme dans notre cas, nous autres, j'avais déjà 2 fils biologiques, c'était beaucoup plus réaliste que de demander de vouloir adopter un enfant, en haut de 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce que il y en a tellement d'enfants qui attendent justement d'être adoptés, vous ne pourriez même pas vous imaginer à quel point. Ça fait que le processus est beaucoup moins long parce que quand ce que ça vient pour un nouveau-né, pour des parents qui n'ont jamais eu d'enfant, tu peux attendre jusqu'à 10 ans.
Wow!
Oui, tu peux attendre jusqu'à 10 ans. Ça fait que le processus est extrêmement long. Là, ensuite de ça, il y a plusieurs évaluations, des évaluations individuelles entre moi et mon mari, un exemple, où ce que c'est que le travailleur social vient et puis pose des questions à mon mari et pose des questions à moi, mais on n'est pas dans la même pièce. On n'est pas dans la même pièce. Puis à un moment donné, si on ne répondrait pas la même chose, ça voudrait pratiquement dire que soit qu'on ne se connaît pas ou que quelqu'un des deux qui a raconté un mensonge.
Oui. C'est presque là? Stressant comme processus, là.
C'est quelque chose. Puis, peux-tu ouais. croire que même après l'avoir eu fait trois fois, tu as autant de stress la troisième fois que la première?
Parce qu'il faut que tu le répètes à chaque fois que tu as
oui. Wow. Oui, oui. C'est un recommencement. À tous les fois que tu décides d'adopter, c'est un recommencement. Comme là, on vient de terminer la troisième adoption, ben, c'était la même chose que la première fois et la deuxième. C'est le même processus.
Wow. Amanda, est-ce que tu as des... Parce que tu étais jeune quand même, mais est-ce que tu as des souvenirs de cette période de transition-là entre ta vieille famille et ta famille actuelle? Est-ce que tu as des récollections de ça? Si oui, comment c'était cette période-là?
Tu sais, comme quand j'étais sortie de ma famille biologique, j'ai été placée dans une famille d'accueil parce que au début, maman, elle n'avait pas de place dans sa famille d'accueil, puis j'avais été placée ailleurs. J'avais été à Paquetteville, mais j'ai vraiment pas été longtemps là parce que le but était de... Parce que j'avais été placée avec ma soeur, puis maman avait juste une place. Puis aussitôt qu'elle a eu de la place pour nous, ben ils nous ont réunis, puis là, on a été ensemble. Puis... Je me rappelle qu'on avait des visites avec les parents biologiques parce qu'ils accordent toujours des visites aux parents biologiques pendant le processus savoir s'ils vont garder la garde ou la perdre. Mais ces visites-là nous rendaient malades parce que vraiment, comme l'environnement qu'on était dedans avant, c'était pas un environnement pour un enfant. Puis je m'en rappelle qu'on vomissait avant les visites parce qu'on était trop stressés, on voulait pas y aller. On n'était pas bien à l'idée de revoir ce monde-là. C'est pas des bonnes personnes du tout. Puis là, quand ce que le juge a enfin enlevé tous les droits qu'il avait sur nous autres, ça a été vraiment un gros soulagement. Même à 5 ans, ben, je pense que j'avais 6 ans quand ce que c'est arrivé à un moment. Quand il a rendu la décision, j'aurais dû avoir 6 ans.
Oui, tu avais 6 ans, même je te dirais un petit peu plus. Tu arrivais à tes 7 ans. Là.
Parce que c'est long quand même, là. Mais même jeune comme ça, ça a été un gros soulagement du sens que je me sentais enfin en sécurité de savoir que ces personnes-là auraient pu de droit sur moi et ils pourraient plus jamais rien me faire, tu comprends? Puis là, pas longtemps après, tu sais, comme quand on est jeune, on n'a pas une grosse conscience du temps, là. Ouais. Je me rappelle la journée que maman nous a annoncé qu'elle nous a demandé si on voulait qu'ils deviennent maman et notre papa. Je me rappelle cette journée-là, mais tu sais, comme nous autres, on les appelait déjà maman et papa, mais on n'avait pas le droit. Mais on les considérait déjà comme nos parents. Puis le jour qu'ils nous ont enfin demandé officiellement, ben là, on a dit oui. Je me rappelle cette journée-là, il y avait une madame, puis là, elle a officialisé les papiers avec nous autres. Puis là, on a changé nom de famille, puis tout ça. Je te dirais que j'ai jamais ressenti comme si j'étais vraiment... C'est ça que je me rappelle de mon enfance, et j'ai jamais senti que j'étais différente des autres. Malgré tout ce qui se passait dans ma vie personnelle, ma maman a toujours été là pour moi, puis comme elle m'a toujours fait sentir comme si j'étais un enfant normal. Fait ces choses-là, pour moi, ça n'a jamais comme influencé ma vie à l'école, mes amis. Tu sais, j'ai toujours eu des amis, à m'amener au... comme voir mes amis, puis ça, puis à l'école, tout allait bien, puis j'ai jamais réalisé vraiment comme la gravité de tout ce qui s'est passé dans mon enfance, parce que ça a été tout seul parce que j'ai eu beaucoup de soutien.
Ben justement, si on prend votre famille, puis on prend une famille nucléaire, biologique, classique, Est-ce que vous remarquez qu'il y a des différences dans votre vie familiale, ou vu que vous êtes une famille d'accueil, ou c'est la même chose? N'importe laquelle des deux, vous pouvez répondre à cette question-là.
Ben moi, je trouve pas qu'on est si différent que ça. Je veux dire, j'ai toujours vu comme... Tu sais, c'est sûr, il y a des enfants qui viennent puis qui vont, mais pour moi, je vois ça comme une maison de transition. Mm-hmm. Comme on aide ces enfants-là à aller mieux. Puis on aide aussi les parents en les aidant. Tu sais, c'est pas tous les parents qui, comme mes parents biologiques, qui étaient des mauvaises personnes. Il y en a qui ont juste besoin d'aide. Mm-hmm. Puis maman, elle a fait ça. Elle va les aider en leur donnant des outils. C'est sûr, c'est pas toujours comme ça, là, mais... On est comme une maison de transition, puis moi, toute mon enfance, j'ai juste vu ça comme aider des enfants qui avaient besoin d'aide, comme moi, j'ai eu besoin d'aide.
Mm-hmm.
Mais à part de ça, c'est tout pareil. C'est pareil comme n'importe quel ami que j'allais quand j'étais jeune.
Puis pour toi, Nicole, vu que avant justement de devenir famille d'accueil, tu avais déjà eu deux fils, à quel point le mode de vie avec ces deux fils-là est différent que maintenant que vous êtes une famille d'accueil, une famille de transition?
Ben, je te dirais que tous les enfants que j'ai accueillis sur mon toit depuis maintenant 16 ans, j'ai toujours fait de mon mieux pour que les enfants ne se sentent pas vraiment en famille d'accueil, pour pas qu'il y ait de différence quand ils vont aller à l'école, d'avoir comme un genre de détente dans le front, de dire « Ah, oh, OK, c'est marqué famille d'accueil, toi, là. » Comme un exemple, l'année dernière, j'avais été en conférence de cas pour un de mes jeunes, puis l'enseignante a seulement réalisé que l'enfant est en famille d'accueil quand elle a vu le nom sur le papier. Elle ne savait même pas que cet enfant-là était en famille d'accueil. Elle n'aurait jamais douté qu'il était en famille d'accueil.
Wow! Ouais. Ça veut dire que tu fais un bon travail, ça.
Ben, je pense que oui. Ouais, puis, quand tu dis des choses comme ça, là, ouais, je pense que oui.
Puis, vu que vous êtes beaucoup dans la maison, est-ce que vous partagez les tâches un peu?
Oui, les enfants ont chacun leur tâche. Puis ça fait partie aussi du noyau familial que tout le monde participe, met la main à la pâte, parce que chaque enfant se sent aussi privilégié, parce qu'il ne se sent pas à part, parce qu'en faisant des tâches, « Ah, ben je suis chez nous, je dois faire ça. » C'est comme tous les enfants.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certains stéréotypes, un certain label peut-être qui est placé sur des enfants adoptés, sur les familles d'accueil au courant de vos expériences?
Il y a encore beaucoup, malheureusement, de gens qui ne savent pas la différence entre une famille d'accueil et une famille d'adoption, qui ne sont pas capables de faire la différence entre mon enfant, présentement, il est adopté. Qu'il soit le frère de un ou le frère de l'autre, ça n'a plus d'importance, ce sont mes enfants. C'est ce que je travaille le plus fort dessus encore aujourd'hui, parce que souvent, je vais être un exemple au cirque. Tout d'un coup, on va voir un monsieur et une madame, ils vont arriver à nous et nous dire « Ah, oh, c'est-tu le frère à lui, celui-là, ou c'est le frère à l'autre? » Bien ça, honnêtement, pour moi, la mère, c'est une des pires questions que tu ne peux pas me poser. Parce que moi, pour moi, ce sont mes enfants et ça s'arrête là. Puis pour moi, ils sont tous frères et sœurs, mes enfants. J'en ai 8, puis ils sont frères et sœurs au même titre, à part égale et entière. Ça fait que quand je vais dans des places comme ça puis qu'ils me posent une question comme ça, ça me vire complètement à l'envers parce que c'est pas le genre de question qu'une personne devrait me poser. Il devrait plutôt me poser une question normale comme « Ah, il y a quel âge ton fils? » Des questions bien banales, mais pas ce genre de questions.
Puis ça, c'est probablement justement parce que les gens sont pas informés, que je vais l'avouer, mais même moi, je vous ai posé la question parce que j'étais pas certain. Parce que on en parle rarement de ça. Puis
parce qu'il y a beaucoup perdu d'éducation à ce niveau-là. Il y a vraiment un gros manque à ce niveau-là, je trouve. Surtout moi, comme quand on a adopté 6, peut-être quelqu'un qui en a adopté 1 ou 2 se fait moins poser la question. Mais pour moi, quand on a adopté 6 et qu'on a maintenant 8 enfants, je peux dire que ça arrive assez couramment. Là.
Est-ce que parfois c'est trop? 8 enfants?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ah. Non, j'échangerai aucun d'eux.
Pour toi, Amanda, est-ce qu'il y a des moments donnés dans ta vie où ce que tu t'es senti comme si tu t'étais peut-être fait juger, tu t'étais fait stéréotyper par rapport à ça?
Ben, c'est plus que comme quand j'étais enfant, ben, quand on est un enfant, on comprend pas tout comme quand on comprend quand on est plus vieux. Fait comme même. Pour moi, quand j'étais enfant, tout ça, c'était pas clair pour moi. Comme même si c'est moi qui vivais ça, je comprenais pas tout ce que ça impliquait. Puis souvent, y a des gens, même des adultes, qui arrivent à moi, puis comme maman dit, comme ils me posaient des drôles de questions. Puis là, moi, ça me faisait sentir triste. Puis là, comme des questions genre, quand ce qu'ils disent ta vraie mère, comme souvent ils disent ça, qu'est-ce qui est ta vraie mère? Oh, j'ai vu ta vraie mère l'autre jour. Maintenant, je suis adulte, j'ai 20 ans, je veux dire, ces choses-là, ça m'affecte plus comme quand j'étais jeune, mais dire, quand j'étais enfant, ce n'est pas des choses qui se disent. Puis je pense qu'il y a un gros problème d'ignorance dans la société, comme il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, là. Puis aussi, c'est que t'sais, toutes les histoires sont différentes, mais notre famille biologique était une famille vraiment. Ils étaient, comment dire ça?
Très tenace.
Oui, tenaces. Ils nous ont suivis, ils ont essayé de s'infiltrer dans nos vies pendant longtemps. Je me rappelle, j'étais adolescente, je travaillais, puis ils venaient sur mon lieu de travail le soir quand j'étais toute seule pour essayer de me parler, de dire des choses comme méchantes sur ma mère. C'est ma mère adoptive, jusqu'à ce que j'ai pas eu le choix d'appeler la police, puis de leur dire, comme tu sais, si vous approchez de moi, ben, il va y avoir des sanctions. Mais ouais, c'est pas mal ça, là.
Et puis, vous avez mentionné les questions. Est-ce que, en général, vous diriez que c'est dérangeant quand les gens vous approchent et ils ont des questions? Au contraire, c'est plutôt une opportunité pour vous autres, les éduquer à ce sujet-là.
Ben, ça dépend quand, ça dépend à qui puis quoi ce qu'est les questions. Je veux dire, il y a des questions qui sont personnelles, là. Je veux dire, comme c'est sûr que si c'est ton ami puis tu la connais bien, après un bout, tu peux te poser des questions plus personnelles. C'est comme n'importe quoi. Mais un inconnu, quelqu'un, une connaissance qui arrive à toi et qui te pose des questions aussi personnelles puis direct sans rien connaître du sujet, puis souvent c'est qu'ils arrivent avec des idées préconçues, comme ils ont déjà entendu des choses, puis là, fait, ouais, ça c'est plus offensant, moi je trouve.
De mon côté, moi, je te dirais que ce qui me dérange le plus, c'est quand que mes enfants sont en ma présence, puis qu'on me pose des genres de questions vraiment très personnelles. Ce que je crains toujours, c'est de faire de la peine aux enfants, puis de devoir essayer après de justifier et d'expliquer à mes enfants, surtout en bas âge, pourquoi que telle personne m'a posé ce genre de questions. Lorsqu'ils me posent des questions et que je suis tout seul, pas en compagnie de mes enfants, je vois plutôt ça comme essayer de les éduquer et de leur faire comprendre la dynamique de ce que c'est. Mais quand les enfants sont en ma présence, je te dirais que j'aime beaucoup moins ça.
Oui, ça fait du sens, puis je crois que c'est la bonne approche à avoir aussi. Je trouve ça très admirable. Je vais terminer avec cette question aussi. Là, je vais faire rouler le hamster dans la roulette, là. Selon vous, c'est quoi les plus gros obstacles, les plus gros problèmes par rapport au plein système d'adoption, plein système de familles d'accueil, etc. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour diminuer ces obstacles-là, diminuer ces problèmes-là?
Bien, la première chose, je te dirais que beaucoup d'enfants qui arrivent en milieu familial, c'est beaucoup relié à la consommation de drogue, d'alcool et violence conjugale et maladie mentale. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est habituellement ce qui a beaucoup de gros facteurs. Ça a déjà arrivé aussi de la dépression postpartum chez les mamans qui peut arriver. Mais en gros, en général, je te dirais, c'est beaucoup les problèmes de santé mentale, consommation de drogue et alcool et violence conjugale. Puis, au niveau du processus comme tel d'adoption, je te dirais que le plus gros problème présentement, ou ce que c'est qui fait aussi que le temps d'attente pour adopter un enfant est long quand le processus est enclenché, c'est la fête des coupures. Parce qu'un travailleur social peut se ramasser à avoir. Je te dis peut-être être réaliste, peut-être 10 dossiers d'adoption à gérer, mais aller une personne tout seul à vouloir gérer ça. Ça fait que c'est vraiment au niveau des coupures où ce que c'est aussi difficile. Parce que toi, tu sais que ton enfant est là, ils t'ont donné les droits de l'enfant, mais tant et aussi longtemps, oui, tu as les droits, tu n'as plus besoin d'exemple. Si ton enfant tombe, se fait mal, doit ou est opéré. T'as plus besoin d'appeler un travailleur social, de demander la permission. Est-ce que mon enfant peut être endormi? Tu as les droits de l'enfant, mais tant aussi longtemps que l'adoption n'est pas prononcée par le juge, tu ne peux pas le mettre sur ton nom de famille. Fait que c'est extrêmement long, puis tu as hâte, puis tu as hâte. Tu peux te dire que tu as vraiment hâte. Mais tant aussi longtemps, puis le travailleur social, ben, a fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Parce que, comme je t'ai dit, elle a énormément de dossiers à gérer et malheureusement, elle est tout seule.
Amanda,
Ça, c'est quelque chose qui devrait mettons que deux personnes, là, ça aiderait grandement.
Je suis certain. Ben, y a beaucoup de lacunes, là, justement, dans tout ça, ce monde-là du travail social, pas juste dans le monde de l'adoption, mais dans le monde général, il y a beaucoup de lacunes au niveau du travail social. Amanda, en t'envoyant un message sur Facebook pour arranger cette discussion ici, j'ai vu que tu étudiais en sciences politiques.
Oui.
Je me demandais, est-ce que tu as peut-être une perspective au niveau de la politique qui... certaines idées qui pourraient peut-être aider justement le monde de l'adoption?
Et si j'avais jamais pensé comme ça.
Je te mets sur le spot. Si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave. Je voulais juste tester.
Ben, moi, mon bac en... Je fais mon bac en sciences politiques. Mm-hmm. Je voulais faire mon bac en sciences politiques comme pour ensuite aller en droit, être avocat, mm-hmm. puis... T'sais, avec mon histoire, c'est sûr, défendre des enfants puis des histoires comme ça, justement. Là. Mais là, avec les études, ben là, il y a plein de perspectives. Et là, après ça, je me suis dit peut-être plus aller dans la fonction publique puis justement améliorer les lacunes que maman parlait de tantôt, comme une personne qui gère le nord de la province, tous les dossiers d'adoption. Une personne, je trouve que c'est pas beaucoup, là. Mais je pense juste que comme mon but, ça serait plus d'améliorer les affaires de même. Là. J'avais jamais pensé comme tu es là.
Ben, peut-être que maintenant tu vas y penser. Peut-être que je viens de planter, une idée. Oui, c'est ça, exactement.
Je voulais aller dans la fonction publique, donc ça serait une bonne idée.
Pour finir, je finis avec ça. Je vous demande en une phrase. S'il y a un message que vous aimeriez envoyer aux gens qui vont lire l'article à ce sujet-là, concernant les familles d'accueil, concernant l'adoption, ce serait quoi cette phrase-là?
Moi, je te dirais, n'ayez pas peur d'adopter des enfants de plus de 2 ans. Mm-hmm. Ils ont le droit d'avoir une famille qui va les aimer pour toute la vie.
Wow. Amanda?
C'est là-dessus que j'allais aussi, là, parce que j'ai été adoptée quand même vieille. Là.
Ouais.
Mais je dirais aussi de ne pas avoir peur de s'informer, parce que c'est important d'être informé, parce que souvent, en connaissant pas des sujets, on peut offenser des personnes sans le savoir. Fait que mm-hmm. C'est important de sensibiliser à ce sujet-là.